et à tous.
Espace 2.
Il est médecin, originaire de la République démocratique du Congo et vit aujourd'hui en Angleterre. Il y a 6 ans, Rémi Toko a dû fuir son pays quand l'hôpital où il travaillait dans le nord-est du pays s'est trouvé ravagé par des rebelles. Et dans le cadre de cette émission, de cette série d'émissions qui s'interroge sur la façon dont les chrétiens vivent l'échec, cet homme revient sur les événements qui l'ont secoué, lui et sa famille. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Cette édition réalisée par François Zieni.
À vue d'esprit. Michel Cocher.
Gabriel Le Sarzan, bonjour.
Bonjour Michel.
Alors vous êtes journaliste indépendante, vous avez fait toute une enquête et lors de cette enquête vous avez rencontré Rémi Toko. Rémi Toko qui a vécu des événements dramatiques alors qu'il dirigeait un centre médical près de Nyankoundé, un centre médical évangélique. Des choses terribles, des malades égorgés, un personnel pris en otage, puis la fuite de près d'un millier de personnes à travers la forêt.
Oui, ça se passait en 2002, donc Rémi Toko dirigeait à cette époque-là cet hôpital de Nyankoundé. Et puis il a pris la tête de 750 personnes, effectivement. Il est parti à travers la forêt avec ces personnes-là, une grande majorité de femmes et d'enfants.
Et cet hôpital a alors été, on imagine, les rebelles n'étaient pas là pour s'amuser, a été détruit, les activités médicales stoppées net. Et ce médecin a accepté de vous partager ce qu'il a vécu, cet échec, au fond un échec professionnel en tout cas.
Effectivement, un échec du point de vue professionnel, parce qu'il s'était formé pendant des années pour prendre cette responsabilité de cet hôpital-là. Et puis il nous fait partager cet échec, cet arrêt brutal de ses activités. Mais il nous parle aussi de ce sentiment d'avoir été abandonné par Dieu à ce moment-là.
Alors on écoute Rémi Toko.
En septembre 2002, pendant que je travaillais dans l'est de la République démocratique du Congo, qui est mon pays, j'ai dû quitter puisqu'il y a eu une attaque sur l'hôpital, une attaque par des soldats rebelles et une milice tribale qui a été terrible sur le centre médical évangélique et l'hôpital où je travaillais.
Rémi Toko, vous étiez alors au fait de votre carrière. Vous aviez accompli beaucoup de sacrifices pour parvenir à ce poste de responsabilité. Vous cumuliez alors à Nyankoundé les responsabilités de directeur d'hôpital et de chef du service de pédiatrie. Comment est-ce que vous avez traversé cette épreuve? Est-ce que vous l'avez vécu comme un échec?
Les émotions étaient mélangées. Et je suis revenu à Nyankoundé de l'Afrique du Sud en janvier 2002. Et comme vous l'avez dit, j'étais le médecin, directeur de l'hôpital, j'étais le responsable du service de pédiatrie. Je venais de terminer ma formation de spécialisation en pédiatrie. Et là, j'avais monté une équipe qui marchait très bien. J'avais des infirmiers qui travaillaient avec moi la pédiatrie. J'avais même à ce moment-là un médecin stagiaire qui est venu, qui était en honneur pour l'hôpital pour apprendre la pédiatrie. Et j'ai aussi travaillé avec une collègue canadienne en pédiatrie qui aimait aussi travailler avec moi. Et j'enseignais les cours de pathologie pédiatrique aux étudiants de l'Institut supérieur de technique médicale sur place et les cours de pathologie à l'Institut de l'enseignement médical. Donc tout marchait très bien pour moi. Et,
tout d'un coup, tout s'arrête, c'est le drame.
Absolument, absolument. Au moment où tout marchait très bien, et bien que la région n'était pas... La sécurité de la région n'était pas 100% bonne. On savait qu'il y avait des troubles tout autour de Nyankoundé. Ça fait déjà plusieurs mois ou années même. Mais nous pensions que l'hôpital sera respecté et que la milice ou le soldat rebelle, normalement, en général, quand ils attaquent les endroits comme les hôpitaux, les églises, on ne les touche pas. Et donc, nous pensions que l'hôpital serait épargné, quoi. Mais en septembre 2002, pour être plus précis, le 5 septembre 2002, malheureusement, l'hôpital a été attaqué par la milice. C'était un matin, et ça, c'était le drame. Tout est arrêté. Bien sûr, j'ai essayé de continuer à travailler pendant au moins une semaine, mais au bout d'une semaine, ce n'était plus possible de rester puisqu'il y avait plus de nourriture et toutes les maisons étaient pillées et on devait sauver les gens.
Vous avez fui avec plusieurs personnes de l'hôpital. Vous avez marché plus d'une centaine de kilomètres, à travers la forêt notamment. Rémi Toko, comment avez-vous vécu cela avec Dieu? Est-ce que vous vous êtes senti abandonné?
Au départ, il y avait plus d'un millier de personnes avec moi. Une partie est partie par la forêt. Et finalement, quand je quittais Nyankunde un certain après-midi du 12 septembre 2002, j'avais environ 750 personnes. Et la majorité, c'était des femmes et des enfants. On avait fait un peu de recensement. Les trois quarts, c'était des femmes et des enfants. Ce qui était, c'était pas facile. Et il y a un soir, le 10 septembre, où la milice qui avait investi la place a perquisitionné l'hôpital, les maisons, le dortoir de l'institut d'enseignement médical de la place. Et la milice a fait prisonnier plusieurs infirmiers, élèves, ou même malades, ou gardes malades, qui appartenaient à la tribu ennemie, comme ils appelaient. Et la nuit du 10 septembre, j'étais dans mon lit, vers, je crois, 23 heures. Et là, je venais d'être témoin de ce qui s'est passé. J'ai vu les gens être liés les mains derrière leurs doigts, faire des cordes, d'être menacés. Moi-même, j'étais d'ailleurs menacé. Ils voulaient me prendre en otage aussi. Et là, pendant un moment, je me couchais, je me suis dit, j'ai prié, puisque j'ai fait une nuit blanche, évidemment. Et je regardais au plafond, je disais, mais Dieu, je sais que tu es là. Et je sais que tu es capable d'arrêter tout ce qui se passe. Mais fais quelque chose. Je voudrais sentir que tu fais quelque chose. Il y a ces gens, ils sont en train d'être arrêtés, ils vont être tués, bien sûr. Il y avait, à un moment donné, un sentiment d'être abandonné par Dieu. Mais ce sentiment n'a pas duré, puisque finalement, il y a eu cette grâce que Dieu m'a donnée de m'accrocher à lui, puisque je me dis que si je ne m'étais pas accroché à Dieu, j'allais craquer. Et là, le fait que j'avais la foi en Dieu, et plus tard, je réalisais que c'était à cause de beaucoup de prières de par le monde. Les chrétiens priaient pour nous, et pour moi en particulier, puisqu'on avait comme lancé une ou deux emails, comment vous appelez, courriels, pour alerter le monde que le Nyankunde était attaqué. Donc, il y avait des mobilisations de prières, même en Suisse. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré hier qui m'a dit qu'il a beaucoup prié pour moi. C'est impressionnant et ça montre comment le corps du Christ fonctionne. Alors, la foi en Dieu a été secouée, sérieusement secouée, puisqu'un hôpital chrétien, l'hôpital général de référence qui servait une population très très large et qui a été détruit sous mes yeux. Je savais que le Dieu qui nous y a amenés pour travailler est un Dieu puissant, omniprésent, omnipotent. Mais il l'a permis. Je savais qu'il était au contrôle de la situation, mais il l'a permis. Et là, pendant un moment, je devais réfléchir là-dessus. Comment? Et puis par après, la notion de la souveraineté de Dieu s'est progressivement établi dans ma tête pour continuer à lui faire confiance et prier surtout pour que la masse qui était avec moi puisse arriver à destination. C'était 150 km au sud de Nyankunde et à travers la forêt, une forêt dense, sans route. Finalement, c'était des pistes puisque les routes ont été abandonnées. Il n'y avait pas de trafic routier à cause de l'insécurité. Oui, la foi a été secouée, mais Dieu a été là. Et en fait, à la fin, quand je regarde en arrière, finalement, la foi a été un peu plus augmentée.
Aujourd'hui, Rémi Toko, est-ce que vous vous sentez remis de cet échec? Parce qu'on peut quand même parler en termes d'échec.
Du point de vue humain, on peut parler d'un échec, puisque j'ai été formé pour assumer des responsabilités. Je commençais à assumer ses responsabilités. Je me réjouissais dans ce que je faisais. Ma femme se réjouissait dans ce qu'elle faisait, puisqu'elle évangélisait les jeunes filles. Et chaque jour, il y avait une ou deux jeunes filles qui passaient. Elle parlait de l'évangile et beaucoup ont reçu le Seigneur. Et finalement, elle parlait aussi des choses de la vie courante, des choses dans la culture africaine souvent. Ça ne se passe pas dans la famille. Et ces échos-là rentrent dans les maisons. Les mamans remerciaient ma femme. Et nos enfants s'épanouissaient. Il y avait de l'espace pour eux après avoir vécu en Afrique du Sud où, à cause des taux élevés de crimes, on les gardait comme des poules sous nos ailes. Finalement, ils ont découvert de l'espace vert. Et ils se réjouissaient donc. Toute la famille était à l'aise. Alors, quand ça s'est arrêté et on devait quitter, c'était comme un échec. Mais quand je regarde en arrière, je crois que le Seigneur nous a placés au bon endroit, au bon moment, pour un service particulier. Et pour moi personnellement, c'était de déplacer cette masse de personnes de Nyankunde jusqu'à Oicha, la mission qui était plus au sud. Et puis aussi de faire... je ne sais pas si je vais faire face aux responsables de la milice et de rebelles, puisque tout le monde était paralysé par une peur. Je n'ai jamais vu une peur aussi dévastatrice que ce que je vis. Les gens avaient tellement peur de cette milice de rebelles, puisqu'on savait qu'ils pouvaient tuer, il n'y avait pas de loi. C'était des ordres, la loi. Les gens avaient très peur. Mais le Seigneur m'a donné un courage pour faire face à ces gens-là. Négocier la sortie de la masse qui était avec moi, arriver à les convaincre que nous devrions quitter la place et même avoir la feuille de route donnée par le commandant de rebelles pour qu'on n'ait pas de pépins en cours de route. Donc pour moi, il y a eu une réussite qui est sortie de l'échec. Donc à la fin, pour moi, ce n'est pas un échec. C'est une situation dramatique, traumatisante. Et comme je dis aux gens qui me posent la question, si je regrettais d'être retourné au Congo, je dis non, je ne regrette pas. C'était important, c'était bien pour moi de rentrer au Congo. Donc pour moi, en fait, c'est une réussite. Puisque le produit final, si on multiplie l'échec à la réussite domine. Donc pour moi, c'était plutôt une grande réussite.
Vous avez quand même parlé de traumatisme. Est-ce que vous, votre femme, vos trois enfants, vous êtes guéri aujourd'hui de ce que vous avez vécu?
Je crois que oui. La guérison a pris du temps. Pour nos enfants, au départ, on ne se rendait pas compte du traumatisme qu'ils avaient. C'est jusqu'à ce qu'on est rentré en Afrique du Sud au cours d'une séance de psychothérapie, des debriefings comme on l'appelle aussi, qu'on a découvert qu'ils étaient profondément traumatisés. Alors ça ne nous a pas permis de rentrer au Congo. Donc finalement, on se retrouve en Angleterre. Et au fil du temps, progressivement, on a senti que la guérison prenait place. Et aujourd'hui, nos enfants sont très très à l'aise maintenant. Et je crois que la guérison a eu lieu. Et ma femme aussi, la guérison a eu lieu. Les cicatrices sont encore là. Ben, je crois que les cicatrices restent. Et pour moi, ça a pris un peu plus de temps. Ça m'a pris au moins 5 ans et demi à 6 ans. Puisque je crois que j'étais dans un mode de survie et en tant que mari et père, je me suis concentré à m'occuper de mes enfants, de ma femme et pas de moi-même. Et ce n'est que quelques années plus tard que je réalisais qu'en fait je n'avais pas eu mon deuil pour Nyankunde, puisqu'il faut le dire, je devais pleurer Nyankunde, puisque c'était un endroit formidable et j'ai vu cet endroit être détruit devant mes yeux, sous mes yeux. Et alors, mon deuil a eu lieu quelques années plus tard, et c'est à partir de l'année passée que je me suis dit, oui, je sentais que j'étais guéri, et prêt à parler plus, prêt à discuter. Et le 5 septembre de cette année 2002, c'était le sixième anniversaire, en fait, je ne pas l'anniversaire de l'attaque. C'est pour la première fois que j'ai écrit aux gens avec qui qui étaient autour de moi, des responsables de l'hôpital qui sont sortis avec moi. C'était pour la première fois et ça, c'était pour dire vraiment que oui, la guérison a eu lieu, j'ai fait le bout de chemin, mon deuil a pris fin. Mais les cicatrices restent. Et quand de temps en temps il y a des troubles au Congo, ça réveille encore un peu. Ça fait lever le poil au dos, quoi.
On peut dire que le temps qui passe, c'est donc le grand consolateur de nos échecs ou des événements douloureux qu'on a vécu.
Oui, je crois que le temps est très important. Et personne ne peut définir la longueur du temps. Et puisque souvent, humainement parlant, nous pensons que après un traumatisme, en quelques mois, la personne reprend la vie normale. Et si vous me regardiez, je fonctionnais, j'étais médecin, je travaillais à l'hôpital. Et je guérissais des malades, ou je prestais, même dans des services, comme les soins intensifs pédiatriques, très spécialisés. Et j'enseignais. Mais à l'intérieur, le processus prenait place. Donc ça demande beaucoup de temps. Et je crois que le temps seul ne suffit pas. Il y a le temps, beaucoup de prières, le soutien des frères et sœurs dans la prière. Et ça c'est très important.
Rémi Toko, vous avez évoqué tout à l'heure les troubles qui secouent à nouveau votre pays. La République démocratique du Congo est à nouveau sous les feux de l'actualité à cause de combats qui opposent l'armée des rebelles à l'est du pays. Comment vivez-vous ici en Europe ce qui arrive à votre peuple ?
Je suis en Europe, mais une partie de mon cœur est restée fermement au Congo. Et en fait, je voulais déjà, après une année en Europe, je voulais déjà rentrer au nord-est du Congo, même seul pendant quelques jours ou semaines, mais ça n'a pas été possible à cause des responsabilités familiales, bien sûr. Mais je suis de près tout ce qui se passe au Congo. Il ne se passe pas un ou deux jours sans que je lise sur Internet les nouvelles du Congo. Donc, je suis de près ce qui se passe dans mon pays. Et oui, il y a à peu près deux semaines et demie, il y a eu des troubles dans la région de Niankoune même. Il y a une milice tribale qui est passée par Niankoune. Au départ, la nouvelle qui nous était arrivée par des amis sur place nous faisait penser qu'il y a eu une attaque sur Niankoune. Et là, personnellement, ça a fait revenir les souvenirs atroces. Et je m'imaginais ce qui pouvait se passer. J'ai beaucoup prié pour que le Seigneur puisse épargner les amis qui sont sur place, qui essaient encore de remonter l'hôpital. Bon, maintenant, c'est à une échelle réduite, bien sûr, un petit hôpital comparé à ce qui était Niankoune. Donc là, ça me fait lever le poil au dos et j'ai beaucoup de soucis quand j'apprends qu'il y a un problème comme ça. Donc finalement, Niankoune n'a pas été détruit comme avant. Il y a eu quelques éléments, une vingtaine d'éléments contrôlés, membres de la milice qui se sont livrés au pillage. Ils ont pris des natels du personnel, de l'argent, des panneaux solaires, de motos, mais ils n'ont pas touché aux vies humaines. Donc ça, c'était pas le pire. Mais de toute façon, ça traumatise les gens, vous voyez. Et au niveau de Goma, bien sûr, c'est pire que ce qui s'est passé récemment à Niankoune, puisque là, il y a une vraie guerre entre un groupe de rebelles et l'armée nationale, avec une population civile qui est prise en sandwich entre les deux. Et j'apprends que les deux côtés, il n'y a pas un bon côté. Les soldats de l'armée nationale, dans leur panique, ils pillent, ils violent, ils détruisent. Les rebelles en font autant et c'est la pauvre population qui souffre. Et moi, ça me fait très très mal au cœur. Je prie beaucoup pour mon pays et j'espère que la souffrance de la population va s'arrêter un jour.
Rémy Toko, vous êtes médecin. Vous exercez une profession qui n'admet pas facilement l'échec. Au niveau médical, justement, comment est-ce que vous gérez l'échec?
Oui, ça c'est vrai que le médecin est formé pour guérir et pas pour échouer. Et au départ, même dans ma vie professionnelle, ça a pris du temps pour que j'apprenne à gérer l'échec. D'abord, la mort des malades. Mais j'ai eu la grâce d'être formé dans le service des soins intensifs, en pédiatrique, un service très spécialisé où on essaye de sauver les enfants qui sont très très malades. Et malheureusement, nous savons aussi qu'il y a un pourcentage de ces enfants en soins intensifs qu'on ne peut pas sauver. Donc au cours de ma formation et de ma pratique professionnelle, j'ai appris à gérer les succès, à gérer aussi les échecs. Donc pour moi, il y a des moments où j'arrive à prendre la décision et à partager une décision avec une famille pour dire qu'écoute, on a tout fait. À partir d'ici, tout ce qu'on fera, c'est futile. Et la meilleure des choses à faire, c'est d'arrêter, d'accepter que nous sommes arrivés au bout. Alors ça, c'est le point de vue professionnel, bien sûr. Et ça a de l'impact aussi sur ma vie personnelle, spirituelle, sociale, etc. etc. Donc ça m'aide à comprendre que l'échec fait partie de la vie. En fait, l'échec, il faut toujours utiliser ce qui est l'échec apparent, convertir ça en des outils pour aller de l'avant. Et ça m'aide beaucoup dans ma vie professionnelle et dans ma vie de tous les jours où je fais un pas en arrière quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui est un échec apparent, et je réfléchis, je réanalyse la situation qui a amené à l'échec et je vois qu'est-ce que je peux utiliser dans cette situation qui peut m'aider à aller de l'avant. Et je crois que c'est comme ça que je vois maintenant l'échec. Pour moi, l'échec n'est pas la fin. Et c'est comme vous tombez, vous vous levez, enlevez la poussière et puis on continue, quoi.
Alors, quelle a été la grande leçon des événements de 2002 à Nyankunde pour vous?
L'une des grandes leçons, c'est que le cœur humain n'est pas bon. Sans Dieu, l'homme est destructeur. Ça, c'est l'une des choses que j'ai découvertes en 2002. Et l'homme a besoin de Dieu pour transformer le cœur. Puisque je vis des jeunes gens sans Dieu et qui sont livrés au meurtre et s'en réjouissaient. Donc le cœur humain sans Dieu, c'est la destruction complète. Aussi, une autre leçon en rapport avec les événements de 2002, c'est qu'il est très facile de détruire, mais la reconstruction n'est pas aussi facile. Donc pour moi, Congolais, pour mes amis, mes frères, ce Congolais, donc, garder les infrastructures que nous avons, ce qui fonctionne, c'est très très important, puisque quand on les détruit, bien, ça prend du temps pour les reconstruire et puis on n'arrive jamais à reconstruire comme il faut, à les rétablir jusqu'au niveau où les structures étaient avant. Et du point de vue santé de la personne humaine, j'ai aussi appris que souvent quand il y a des tragédies, que ce soit dans l'église ou les ONG, il y a tendance à ne pas prendre soin de la personne totale. Les émotions, la santé psychique, spirituelle, n'est pas toujours soignée. C'est plus facile de prendre soin de besoins physiques, la nourriture, les tentes pour que les gens aient une place pour dormir, sans penser aux angoisses, aux sentiments d'abandonnement, d'échec que les gens expérimentent dans leur vie, sont en train d'expérimenter dans leur vie. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé et je me dis que quand il y a une tragédie, l'une des choses principales dont il faut prendre soin, c'est la santé psychique, mentale, spirituelle des traumatisés. Que nous allons au-delà de besoins physiques, puisque c'est vraiment important et souvent très très négligé.
Rémi Toko, médecin originaire de la République démocratique du Congo, était avec nous pour évoquer l'échec dramatique que vivent parfois des chrétiens, mais surtout la façon dont ils peuvent s'en relever et les leçons qu'ils sont amenés à en tirer. Alors il prend également la parole, Gabriel de Sarzan, dans un livre que vous venez de publier avec Serge Carrel aux éditions Favre.
Oui, absolument. Dans ce livre, Parole aux pauvres, Rémi Toko évoque ces événements de 2002. Est-ce qu'il a traversé à ce moment-là ? Il prend aussi position sur la façon dont on peut aider depuis la Suisse, depuis l'Occident, son pays.
C'est d'autant plus important que la crise continue là-bas. Si ce n'est pas exactement dans la même région, c'est au Kivu.
Absolument.
Merci Gabriel de Sarzan. Demain, prochaine édition de cette série d'Avus d'Esprit. Demain, nous recevons Pierre-Yves Brand avec Serge Carrel, ce professeur de théologie et psychologue. Nous parlera des échecs, non pas dans la vie professionnelle comme aujourd'hui, mais dans la vie spirituelle. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur cette série d'émissions, sur nos invités, sur leurs publications, eh bien visitez notre site religion.rsr.ch, vous y trouverez toutes les informations nécessaires, ou téléphonez-nous au 021 318 6070 pour commander la série de CD ou nous faire part de vos remarques et commentaires. Merci de votre fidélité à l'écoute de la Radio Suisse Romande. Espace 2, cette édition était réalisée par François Zieni. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Après les informations de 17h, rendez-vous avec D'un air entendu.
Des notables viennois décident de s'encanailler sous des déguisements et voici que le temps d'une nuit de réveillon, la soubrette rivalise avec sa maîtresse tandis que le mari en vient à courtiser sa femme croyant qu'il lui est infidèle. La chauve-souris de Johann Strauss déploie ses ailes et ses masques du 12 au 31 décembre au Grand Théâtre de Genève. Cette production du Festival de Glyndebourne est dirigée par Thomas Rössner et mise en scène par Stéphane Lawless. Elle sera diffusée samedi 10 janvier à 20h dans À l'Opéra sur Espace 2.
Espace 2. Il va être 17h. Vous retrouvez Daniel Robella après les informations.